Boutique, 6 mars 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Au dernier cours, vous nous disiez que face à la découverte de Dieu, l'homme reconnaissait le primat de l'amour de Dieu sur lui. Pourriez-vous expliciter cela? Dieu crée-t-il nécessairement par amour? Oui. Bon, là, je vais expliciter un peu. Ne craignez pas. Je regarde toutes les questions posées. Ce que vous appelez adoration, est-ce la même chose que le mot hérité des traditions religieuses ou chrétiennes, ou plutôt l'opération intégrant la théoria d'Aristote dans un concours de l'intelligence spéculative? Non. Alors avec ça, vous êtes bien mieux. Dans quelle mesure peut-on parler d'un amour de la créature pour son créateur et du créateur pour sa créature? Ça, c'est très bien. On ne peut plus répondre ni oui ni non. Vous voyez, on est obligé de prendre une attitude plus nuancée, normande. L'adoration n'est-elle pas plus une attitude d'infini respect? Et le regard du créateur n'est-il pas bienveillant? L'amour n'implique-t-il pas une certaine égalité, une mise en commun? Non. Là, ça dégringole. L'amour n'implique pas une égalité. L'amour, c'est pas une égalité. L'égalité est en dehors de l'amour. Il n'y a jamais d'égalité dans l'amour. Jamais. Heureusement, ce serait ennuyeux. Il y a des similitudes, mais il n'y a pas d'égalité. Alors, une mise en commun, oui, il y a une mise en commun. Alors, l'adoration, c'est pour ça qu'il peut y avoir une amitié entre Dieu et nous. Parce que même dans l'ordre surnaturel, c'est la même chose qui arrive. L'adoration est-elle librement choisie ou s'impose-t-elle à moi de manière analogue à l'amour que l'on doit avoir pour ses parents, selon Aristote? Bon, on va essayer de répondre à ces questions, c'était bien. Je comptais revenir du reste sur l'adoration, c'est très bien de revenir là-dessus. Alors, première chose, comprenons bien que cette recherche ordinairement se fait à partir des traditions religieuses. Le problème de l'existence de l'être premier se fait à partir des traditions religieuses. Pas nécessairement, mais concrètement, ça se fait toujours à partir des traditions religieuses. Ce sont les traditions religieuses qui me posent le problème et qui posent le problème aux philosophes. C'est comme ça qu'Aristote s'est posé le problème. Le tiesti, qu'est-ce que c'est que Dieu? Aristote ne s'est pas posé l'existence de Dieu. Ce sont les sophistes qui ont dit que Dieu n'existe pas. C'est Platon qui a voulu répondre dans les lois que Dieu existait. Aristote n'a donné aucune démonstration d'existence de Dieu. Pour lui, ça allait de soi. Ça, je crois. Mais il se pose la question, qu'est-ce que c'est que Dieu? Bon. Alors, c'est à l'intérieur de ces traditions religieuses que, de fait, l'homme se pose la question, quels sont les rapports qui existent entre l'être premier et la créature? C'est évident que toute l'éthique religieuse présuppose ça. La découverte que l'intelligence humaine est capable de faire d'un être premier et que ayant découvert l'existence de cet être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, on se pose la question, quelle est la relation de cet être premier et de nous? Et à ce moment-là, on dit que cette relation qui existe entre l'être premier et nous-mêmes, c'est ce que les traditions religieuses ont appelé le problème de la création. Alors, je ne peux pas faire avec vous ici tout le problème de la création au point de vue métaphysique. Il faudra le faire un jour, parce que c'est très important, ça, c'est capital, le problème de la création. C'est sûrement un grand axe philosophique très intéressant. Ce que je peux dire, c'est que quand le philosophe découvre l'être premier, il découvre l'être premier comme un être qui n'implique aucune imperfection, qui est infini, sans limite, et qui est bon, qui est parfait et bon, et qui s'aime, et donc il est amour. Le philosophe peut dire ça. Le philosophe peut arriver à dire que Dieu est amour. Ça va de soi. Un être premier qui ne serait pas amour, je ne sais pas ce qu'il serait. Un être premier qui n'aurait pas la vie et une vie contemplative, je ne sais pas ce qu'il serait. Vous savez bien, Aristote aboutit à cette affirmation qui est très très belle. Et pour saint Thomas, on n'en a pas dit de plus belle que celle-là. Noésis, noéseos. Noésis, noéseos, c'est-à-dire la pensée de la pensée. Donc, Aristote considère que l'être premier nécessairement a une vie spirituelle, qu'il se contemple et qu'il ne peut que se contempler. Et que c'est ça sa vie. Or, comme il est en acte, il est donc contemplatif. Et sa contemplation, c'est la contemplation de la contemplation. Ou la pensée de la pensée. Ça, on peut l'affirmer. Et on peut affirmer en même temps que cette contemplation, c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui, puisqu'il est l'être parfaitement bon. Donc c'est la contemplation du bien et du bien parfait. Et cette contemplation du bien parfait implique un amour. Donc je peux dire que Dieu, l'être premier au plan philosophique, est amour substantiel. Il est lumière et amour. Je peux le dire ça, philosophiquement parlant. Même s'il y a très peu de philosophes qui l'ont dit, je peux le dire. Il est lumière et amour. Du fait qu'il y en a un qui l'a dit, c'est déjà suffisant. Il y en a plus d'un qui l'ont dit. Il est lumière et amour. De fait, il y a une création. Je constate qu'il y a une création, parce que j'existe. Et que je ne peux être qu'une créature face à Dieu. Parce que Dieu est unique et que moi, je suis à côté d'autres êtres qui ont la même nature que moi. Donc je ne peux pas être l'être premier, c'est impossible. Je suis limité. Et celui qui est à côté de moi aussi est limité et n'est pas l'être premier. L'être premier est invisible. Et de lui vient toute chose. Mais si de lui vient toute chose vient librement de lui, puisqu'il est parfait en lui. Donc, l'acte créateur ne peut être qu'un acte de surabondance d'amour, dans une lumière parfaite de contemplation. Je peux dire ça très vite, hein, au niveau proprement philosophique, au niveau sagesse. Il peut être que l'acte de création ne peut être qu'un acte libre de surabondance d'amour. La créature n'ajoute rien à Dieu. C'est pour ça que c'est un acte de surabondance d'amour. Et la créature est créée dans la lumière de la contemplation de Dieu. La création est un acte lumineux. Mon travail n'est pas toujours lumineux, moi. Surtout quand je travaille la cuisine. C'est pas toujours très lumineux. Quand je travaille le bois, c'est pas toujours lumineux. Quand je travaille la métaphysique, ce n'est pas non plus toujours lumineux. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a des moments où c'est des tunnels, où on ne voit rien du tout. Tandis que Dieu travaille dans la lumière. Et la création se réalise dans la lumière. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et dans la lumière et dans la surabondance de l'amour. Le philosophe, l'homme philosophe, quand il découvre que l'acte créateur est un acte de surabondance d'amour et que la créature ne peut rien ajouter à Dieu et que Dieu l'a créé librement dans une libéralité absolue par pur amour sans rien attendre de plus de la créature, alors à ce moment-là, la réponse de l'homme à Dieu, c'est de reconnaître qu'il est enveloppé d'amour. Et il se remet entre les mains de celui qui est son créateur. Il se remet dans l'amour de son créateur. Et c'est son acte d'adoration de reconnaître cette dépendance totale vis-à-vis de Dieu et de reconnaître cette dépendance radicale de tout son être à l'égard de Dieu, et de se remettre entre les mains de son amour. C'est en ce sens-là que l'acte d'adoration est un acte d'amour. Mais l'acte d'amour de celui qui reçoit tout. Et donc un acte de reconnaissance d'amour. Un acte de remise de tout ce qu'il a entre les mains de Dieu. Parce qu'on ne peut répondre à l'amour que par l'amour. Même si mon amour n'ajoute rien à Dieu, je ne peux répondre à l'amour que par l'amour. Et dès que je découvre que l'acte créateur est nécessairement un acte d'amour, ça appelle directement en moi un acte d'amour. Mais un acte d'amour de celui qui aime en remettant tout. De celui qui aime en reconnaissant qu'il est dans une totale dépendance à l'égard de l'être premier. Qu'il est dans une totale dépendance à l'égard du Créateur. Et qu'il remet tout entre les mains du Créateur. Vous voyez donc, à l'amour libre du Créateur, je réponds par un amour. Et je dis, cet amour est libre. Alors, souvenez-vous, ce que nous avions déjà vu, je ne prends pas la comparaison des parents, je prends plutôt la comparaison de ce que nous avions vu. Lorsque je suis en face d'un bien spirituel, il y a un bien spirituel qui me dit, et il y a moi à l'avenir. Et je peux reconnaître cet amour, l'accepter ou pas l'accepter. Et dès que j'accepte cet amour, il devient une intention de vie. L'intention de vie est un amour reconnu et libre. J'aime ce bien, cette personne. Bien, il y a quelque chose d'analogue, vous voyez. Il y a quelque chose d'analogue dans ce moment particulier où la petite créature qui est l'homme reconnaît cette totale dépendance à l'égard de Dieu. Reconnaît qu'il y a un être qui est antérieur à lui, qui est sa source, qui est son père. Source d'être, source de lumière, source d'amour. Il reconnaît cela. Normalement, la reconnaissance d'un bien qui se communique à moi. Donc d'un bien qui est en acte de communication, qui se donne à moi, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de l'amour, suscite en moi un amour. Un amour radical. Un amour premier. Un amour fondamental. Et cet amour, je l'accepte librement. Et c'est lorsque j'accepte librement qu'il devient une intention de vie, une adoration. L'adoration est une intention de vie. C'est un amour accepté librement qui est une intention de vie. J'accepte de vivre comme une créature. Très radical cet acte-là. Il y a des personnes qui ne l'ont jamais fait. Il leur manque quelque chose. Ils n'ont jamais compris qu'il y a cette remise radicale, et donc une intention de vie ordonne. Ça implique un ordre. Tout est ordonné vers ça. Tout est mobilisé vers ça. Dans l'adoration, c'est une intention de vie. Ça présuppose un premier amour, et ce premier amour est accepté librement, et étant accepté librement, il fait que je me remets entièrement entre les mains de l'être premier et du Père. C'est ce qu'il y a de si radical et si profond dans l'adoration. C'est la reconnaissance de ce premier amour. De cette première amour du Créateur. Et l'attraction qu'exerce sur moi le Créateur parce qu'il est mon bien. Alors, il suscite en moi un amour dont je n'ai pas conscience, faisons attention, hein. Je n'ai pas conscience. C'est l'amour de la partie pour le tout, comme dit saint Thomas. J'ai conscience de cet amour, je prends conscience de cet amour dans l'adoration, mais pas avant. Alors à ce moment-là, si j'en avais une conscience lumineuse, il y a quelque chose que je prends conscience dans librement. Vous allez dire, mais comment on peut accepter librement s'il n'est pas conscient? Il n'est pas conscient. Il est vécu. Il n'est pas conscient psychologiquement. Vous voyez, ce n'est pas une conscience psychologique. Vous n'avez pas conscience psychologique d'aimer le Créateur comme la partie à tout, au niveau purement humain. Mais c'est du vécu, exactement comme on est attiré par un bien et qu'on accepte cette attraction. Il y a une certaine attraction, c'est pour ça que j'ai dit du vécu dans l'ordre de l'attraction. C'est le tout qui m'attire. Je suis saisi par cette attraction première du Père, de celui qui est mon bien. Qui est, non seulement il est mon bien, mais il est source de mon bien. Et la source même de tout mon être, de toute ma lumière, de toute ma vie, et de tout mon amour. Et il m'attire à lui. Et c'est cette prise de conscience, oui, qui se fait librement, où je laisse cette source m'envahir dans l'adoration. L'adoration, c'est ouvrir mon cœur, ma volonté, c'est ouvrir mon cœur, ma volonté, à cette source, pour que cette source m'envahisse complètement, pour que je me remette entièrement entre cette source. C'est quelque chose de très radical, l'acte d'adoration. Et c'est pour ça que l'acte d'adoration purifie radicalement. Et c'est pour ça que l'acte d'adoration détermine et l'acte d'adoration permet une attitude d'abandon. Je me remets entre les mains de celui qui est tout pour moi. C'est très radical. Et c'est là où commence à naître, c'est là où commence à naître l'attitude religieuse. L'attitude religieuse naît, l'attitude religieuse de l'homme, naît dans l'adoration. Elle n'est pas au niveau de ce premier amour, ce qu'il est au-delà de la conscience. Je suis parfaitement conscient. Exactement comme la morale humaine naît au niveau de l'intention, et non pas au niveau de l'amour, qui est le fondement, ici c'est la même chose. La morale religieuse naît autour de l'adoration, dont j'ai conscience. Et je comprends que cette adoration me saisit dans ce qu'il y a de plus moi-même pour ordonner tout mon être d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que l'intention a une force d'intention de vie. C'est une intention de vie d'un type très particulier, mais c'est quand même la force de l'intention de vie, tellement il est enraciné en moi. Parce que je découvre à ce moment-là une nouvelle finalité. Cette source qui est mon bien, c'est ma fin. Je découvre cette fin dans l'adoration. Puisque l'adoration me libère. Cette dépendance radicale que j'ai à l'égard de l'être premier est source de toute libération. Donc, on me fait découvrir une nouvelle fin. Une fin qui est toute proche de moi, qui est toute immanente à moi. Oui.
Dans quelle mesure on peut refuser cette
attraction si ce bien s'impose à nous ? Il s'impose à nous, mais il s'impose à nous. Je peux toujours le refuser. La preuve, c'est que dans certaines idées, une certaine idéologie qui me dit accepter une dépendance, c'est te mettre dans un état de dépendance au fait. Fuis cette dépendance. Vous voyez, le raisonnement que prend certains psychiatres, ce psychiatre qui se veut plus royaliste que le roi et plus frondeur que Freud, n'est-ce pas ? Alors, qui dit accepter une dépendance, accepter la dépendance de l'enfant à l'égard de sa mère, c'est nécessairement le mettre dans un état d'aliénation. Et donc on peut très bien avoir ce sentiment-là, accepter ce premier amour, et bien se mettre dans un état d'aliénation. Donc je fuis cette adoration. Je ne la veux pas au nom de l'autonomie fondamentale qu'il doit y avoir en moi. Donc je rejette. Ça, c'est un acte libre d'adorer. Parce que j'adore dans l'obscurité. Si j'adorais dans la lumière, vous voyez, si autrement dit, Dieu s'imposait à moi comme une source lumineuse de ma vie, alors je ne pourrais pas adorer. Le démon adore, hein, il est obligé d'adorer. Il est plus libre d'adorer, il est obligé d'adorer. Et s'il y a des âmes dans les enfers, et des hommes dans les enfers, ils sont obligés d'adorer, de reconnaître que Dieu est le créateur souverain. Ils adorent sans amour. Ils reconnaissent l'absolu de la source première dans leur être. Tandis que nous, normalement, l'adoration est un acte d'amour. Oui. Vous allez dire à ces deux adorations différentes, ces deux adorations totalement différentes. L'une est forcée, l'autre. L'une est morale, me constitue comme créature. C'est la créature ici qui est structurée comme créature par l'adoration. Tandis que de l'autre côté, c'est la créature qui se met dans un état de révolte. Elle adore parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc c'est une adoration d'intellectuel. Vous savez ? Ils font une géniflexion en regardant à côté. Tourne le dos, géniflexion, terrassé, son vieux. Il ne regarde pas. Son furieux. Une adoration tordue. Complètement tordue. Tandis qu'au contraire, l'adoration que nous devons faire librement, c'est à l'intérieur de l'amour. C'est pour permettre à cet amour premier de tout prendre. Et de nous libérer dans cet amour. C'est ça l'acte d'adoration. Chose de très, très fondamentale. Donc, vous voyez bien, ceci explicite un peu, je crois, ce qui était demandé. Que c'est en réponse à cet amour premier, libre de Dieu sur moi, c'est en réponse à ce premier amour que j'adore. Je reprends la question ici. Ce que vous appelez adoration, est-ce la même chose que le point de vue des traditions religieuses ou chrétiennes, ou plutôt l'opération? Oui, l'adoration dans toutes les traditions chrétiennes, c'est ça. Mais j'explicite, je le rends plus lumineux. Parce que la plupart du temps, les gens considèrent l'adoration comme quelque chose d'extérieur. L'adoration est premièrement intérieure. Que le corps accompagne l'âme qui adore. C'est bon, parce que c'est quelque chose de très radical. Mais l'adoration n'est pas premièrement une expression du corps. Ce n'est pas premièrement ça. L'adoration est premièrement un acte intérieur d'amour, et un acte libre d'amour. Un premier retour vers Dieu. Alors qu'il y ait une expression corporelle de l'adoration, c'est normal, étant donné que l'adoration touche à mon être, pas seulement à ma vie spirituelle, touche à mon être. Et donc c'est tout mon être qui reconnaît. Cette dépendance absolue. Alors, est-ce que ça implique, quel est le lien avec la théoria d'Aristote ? Bien, je crois que la théoria d'Aristote présuppose l'adoration. Aristote n'en a pas parlé. Je crois qu'il n'y a pas de théoria sans adoration, mais il y a une adoration sans théoria. La contemplation naturelle à l'égard de Dieu présuppose l'adoration. C'est-à-dire cette attitude de rectitude fondamentale de la créature à l'égard du Créateur. Parce que l'adoration purifie et l'adoration me met dans la vérité. C'est la vérité pratique quand j'adore. Je reconnais que Dieu passe devant moi. Je reconnais que Dieu a tous les droits sur moi. Je reconnais que je suis en dépendance radicale vis-à-vis de Dieu et que cette dépendance n'est pas gênante parce que Dieu n'est pas rival de la créature. Alors, je pourrais répondre. Dans quelle mesure peut-on parler d'un amour de la créature pour son créature? On peut parler d'un amour, parce que l'amour n'a pas d'égalité. Dieu aime en se donnant. Et dès que nous constatons que Dieu aime en se donnant, nous répondons en donnant. C'est un amour évidemment très, très particulier, puisqu'il n'est pas réciproque. Ce n'est pas un amour d'amitié. C'est un amour vrai, un amour de bienveillance de la part de Dieu, c'est très vrai, un amour de bienveillance de la part de Dieu, mais de bienveillance divine, de bienveillance qui consiste à créer un être. Donc c'est l'amour du Créateur, c'est l'amour premier, et nous nous répondons à notre manière en essayant de l'aimer dans toute sa transcendance, c'est-à-dire avec le respect infini qu'implique l'adoration. Il y a un respect infini dans l'adoration, mais il y a plus que le respect. Le respect n'est pas l'adoration. L'adoration implique un amour, une remise totale de tout nous-mêmes. Mais très facilement, on a réduit l'adoration à un respect. L'adoration n'est-elle pas plus une attitude d'infini respect et le regard du Créateur n'est-il pas la bienveillance? Ça implique le respect, ça implique la bienveillance, mais c'est plus. L'acte créateur de Dieu auprès de nous, pour créer notre âme, c'est pas seulement de la bienveillance. C'est plus, c'est un don. J'allais dire la bienveillance aussi, mais c'est pas le don substantiel, la bienveillance. Là, c'est un don personnel. Dieu a donné, il m'a donné mon âme. Il m'a donné ma vie. Alors, réponse à cela, c'est plus qu'un respect, c'est aussi un amour. Alors, l'amour implique-t-il une certaine égalité, une mise en commun. C'est l'amour d'amitié qui exige une mise en commun. Mais je ne dis pas qu'il y a un amour d'amitié entre la créature et le créateur. Il n'y a pas d'amour d'amitié. Il y a un amour trop divers pour qu'il y ait réciprocité. L'adoration est-elle librement choisie ou s'impose-t-elle à moi de manière analogue à l'amour que l'on doit avoir pour ses parents? L'amour qu'on a pour ses parents est libre aussi. Il s'impose, en ce sens qu'il y a un premier amour de la partie pour le tout, également. Mais c'est pas ce premier amour qui est l'amour des enfants pour leurs parents. Il y a un amour libre. L'adoration est-elle librement choisie ou s'impose-t-elle à moi de manière analogue à l'amour? Il est librement choisi. Alors, oui.
Elle ne présupposerait pas
l'adoration. Elle ne présupposerait pas. Ah oui, pour découvrir l'existence de Dieu, il est conduit par l'exigence de son intelligence. Pour découvrir la première manière dont Dieu existe, il est conduit par l'exigence de son intelligence. Ça, c'est sûr. Ça présuppose tout ça. Pour découvrir que Dieu est amour et qu'il crée dans l'amour. Ça présuppose tout ça. Mais une fois qu'il a découvert ça, il y a un amour qui appelle un autre amour.
Alors la théoria commence quand exactement?
La théoria commence après, pas au début. Après. Elle présuppose toutes ces enquêtes-là. Elle est au terme. Oui. Elle n'est pas immédiate. On pourrait dire qu'elle est immédiate, mais elle est très imparfaite. Oui, elle est au terme. La théorie aristotélicienne, la théorie telle qu'Aristote en parle de Dieu, cette théorie, c'est-à-dire vivre ce que Dieu vit d'une façon momentanée alors qu'il le vit tout le temps, eh bien ça présuppose tout ça. Ça, c'est sûr. Alors, une question qui s'était posée et qui est importante aussi, est-ce que cet acte d'adoration présuppose-t-il pour exister, les traditions religieuses? Bien, je dirais non. C'est un acte beaucoup trop personnel et intérieur. Pour pouvoir s'extérioriser, la liturgie présuppose les traditions religieuses. L'expression corporelle présuppose des traditions religieuses. Je ne sais pas si, vous voyez, c'était l'hypothèse, hein, de quelqu'un qui aurait vécu complètement, Jean-Jacques, n'est-ce pas, complètement séparé de tout. Complètement séparé de tout. Alors, est-ce que spontanément il se mettrait à genoux? Corporelle. Est-ce que spontanément il leverait les mains au ciel? Est-ce que spontanément il mourrait? L'adoration est secrète. Elle est personnelle et elle est secrète. Elle est naturelle, tout en étant volontaire et libre. Mais elle est naturelle. Il est naturel pour un homme d'adorer. Tandis que la liturgie présuppose tout un aspect conventionnel. d'expression visible et donc présuppose les traditions religieuses. Vous voyez, c'est différent, c'est pas la même chose. C'est quelque chose de visible, extérieur, et c'est quelque chose de communautaire, normalement. Quand on est seul, on peut inventer cette liturgie. C'est même pas mauvais d'avoir cette liturgie personnelle, de chanter ses psaumes. Vous voyez, il y a une tradition de psaumes. Et d'ouvrir sa fenêtre, regarder la lune, et de chanter la splendeur de Dieu. C'est très bien. C'est, je ne sais pas quel serait le chant le plus spontané à ce moment-là, n'est-ce pas, qui serait le plus proche de la nature. Je n'en sais rien. Parce que, au fond, toute liturgie présuppose des traditions. Je crois. Et là, vous allez dire, il faut bien qu'il y ait un jour et ça ait été inventé. C'est bien évident. Je ne crois pas que la liturgie est tombée du ciel avec en nous donnant un livre de chants, n'est-ce pas, pour chanter Dieu de telle ou telle manière. Je ne crois pas. Je crois que c'est l'homme qui l'a inventé. Mais ça s'est inventé comment? Quand l'Écriture nous dit, voyez, le premier acte, parce que c'est la première chose, hein, le premier acte d'adoration d'Adam et Ève ne nous est pas livré. Et Adam et Ève ont adoré. Le premier acte qu'on voit, c'est un acte liturgique. Caïn et Abel. C'est un acte liturgique. Ce n'est pas seulement une adoration, c'est une adoration dans un acte liturgique. Puisqu'ils offrent les prémices. C'est la première chose qui nous est révélée au point de vue communautaire. Et c'est pour ça qu'ils sont deux. Ils n'ont pas dû être trop près l'un de l'autre. Mais suffisamment pour que Caïn puisse loucher et regarder Abel. Ce qui peut exister dans toute liturgie. Tandis qu'au contraire, dans l'adoration, il n'y a pas possibilité de loucher. On est pris par Dieu d'une manière telle mais qu'il n'y a plus que lui. Quand on adore, il n'y a plus que Dieu. Tandis que quand vous faites un geste liturgique, il y a le point de vue extérieur. Il y a la complexité du point de vue extérieur. Tandis que là, vous êtes en face d'un acte intérieur, simple. Donc je dirais que l'adoration, c'est naturel. Tandis qu'encore une fois, la liturgie implique toujours quelque chose de conventionnel. Toujours. Alors il y a des liturgies chrétiennes, c'est encore différent. Mais je prends ici la liturgie. La liturgie au niveau religieux. Toutes les religions ont une liturgie. Toutes les religions. Pour la communauté. Alors, quelquefois, la liturgie vient supprimer l'adoration. Du horreur, du sang du taureau et du bouc. C'est quand la liturgie devient tellement nette, précise, qu'on oublie l'adoration. Quand on oublie l'adoration, la liturgie devient quelque chose qui n'est plus vrai. C'est toujours par l'adoration qu'on renouvelle la liturgie. Tout renouvellement de la liturgie se fait par l'adoration, pas premièrement par le chant. C'est un renouvellement second, celui-là. Le renouvellement premier, c'est l'adoration. C'est pour ça qu'il peut se faire chacun individuellement. Alors, autant que possible, collectivement. Le renouveau de notre attitude religieuse doit se faire pendant le carême. Chaque fois, c'est un renouveau. Et c'est l'adoration. C'est pour ça que c'est l'eau des airs. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre que tout renouveau liturgique se fait par l'adoration. Il ne faut pas se faire autrement que par l'adoration. C'est l'adoration qui est quelque chose de fondamental et de premier. Bon. Voyez tout ça. C'est bien vu, ça, parce que ça, c'est capital. C'est capital au point de vue philosophique, de la philosophie religieuse, et c'est capital dans notre vie, puisque bon, c'est ce que nous essayons de dire. S'il n'y a pas l'adoration, vous comprenez que l'homme religieux disparaît, petit à petit. Alors, on n'a plus qu'une vie religieuse conventionnelle. Une vie religieuse conventionnelle, c'est une vie religieuse extérieure. Et Dieu a horreur du sang des taureaux et des boucs. Il ne faut jamais l'oublier. Donc Dieu peut avoir horreur de certains gestes, de certaines liturgies de parade, de certaines attitudes, parce que ça ne correspond pas à l'intérieur. Pour que ça corresponde à l'intérieur, il faut que l'adoration existe. C'est pour ça que ça commence toujours par l'adoration. Et tous les renouveaux liturgiques doivent commencer par l'adoration, pour être vrai. Parce que l'attitude de l'adoration nous rend vrai. Alors, à partir de là, va se développer dans l'homme une nouvelle dimension, la dimension religieuse. Elle naît comme une conséquence de l'adoration. Ça naît à partir de l'adoration. Comprenons. À partir de cette adoration, va naître en nous une vertu nouvelle, la vertu de religion. La vertu de religion est une vertu qu'on acquiert. On peut, en tant que chrétien, avoir une vertu infuse. Ça, c'est le point de vue de la théologie. Tandis qu'au point de vue proprement philosophique, je dois dire que dès que nous avons découvert ce qu'a représenté l'adoration, dès que nous avons reconnu cette dépendance aimante à l'égard de l'être premier, se développe en nous cette dimension fondamentale qui est la dimension religieuse. Et cette dimension fondamentale de la dimension, cette dimension fondamentale de notre être humain religieux, nous permet d'acquérir la vertu de religion. Donc, aux quatre vertus cardinales, ajouter une cinquième vertu qui n'est pas cardinale, la vertu de religion. Il semblerait que sur la vertu de religion, il soit méta-cardinale. Racine de tout, et donc être avant toutes les vertus cardinales. Or, de fait, elle n'est pas une vertu cardinale, du moins on ne le dit pas. Il faudrait peut-être le dire, dans notre monde d'aujourd'hui. Ce serait peut-être la vertu méta-cardinale. Parce que, de fait, elle nous rectifie dans notre lien avec Dieu. C'est très curieux, ça. Religieuse. Je dois peut-être dire ça, parce que nous sommes dépendants de ce que saint Thomas nous dit en théologie. Et en théologie, saint Thomas montre que la vertu de religion est dépendante de la justice. La justice est une vertu cardinale et les dépendances de la justice. C'est le point de vue de la religion. Pourquoi ? Parce que par la vertu de religion, nous reconnaissons le debitum du Créateur à l'égard de la créature. Nous reconnaissons notre totale dépendance à l'égard du Créateur en tant que nous sommes créatures. Donc, c'est une partie de la vertu de justice. Et cependant, c'est une partie de la vertu de justice qui est une justice très imparfaite, parce que nous avons tout reçu de Dieu, et ce que nous rendons à Dieu n'est pas grand-chose. Donc, vertu de justice, très imparfaite, mais d'autre part, vertu de justice très parfaite, parce qu'elle regarde l'autre, qui est Dieu. Donc, nécessairement, la vertu de religion a une ampleur, une grandeur très unique. Alors, comprenons un peu ce que c'est que cette vertu de religion que nous acquérons. Hein. Nous acquérons la vertu de religion. Et on doit l'acquérir. Il faut poser des actes religieux, des actes d'adoration pour que la vertu de religion puisse apparaître. Donc, on devient un être religieux. On le devient. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous. C'est faire que la vertu de religion progresse, s'empare d'une terre vierge, de ce qui est en nous, qui doit être totalement relatif à Dieu. Quelque chose en nous qui demande d'être actué par l'adoration, d'être actué par cette relation spéciale de tout notre être vers Dieu. Donc il y a quelque chose en nous qui demande cela. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la vertu de religion, parce que ce quelque chose étant tellement enfoui risque toujours d'être emporté par l'imagination.